Nagaberthova vous présente le bulletin d'information. Le comité national du parti chrétien-démocrate KDU-CSL a recommandé à la conférence du parti qui s'est réunie ce mercredi que ses trois ministres quittent le gouvernement de Stanislav Gross et que ses députés ne le soutiennent pas vendredi lors du vote de confiance au Parlement. Les chrétiens-démocrates se déclarent en même temps favorables à la continuation de la coalition gouvernementale existante, mais avec un nouveau Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères, Tyrell Svoboda, est dans ce sens nettement moins catégorique que le chef du parti, Miroslav Kalousek. Michal Kraus, chef du groupe des députés sociaux-démocrates, a invité les autres fractions représentées au Parlement, sauf l'ODS, Parti civique démocrate, à ne pas soutenir la proposition de motion de censure soumise par ce parti, qui est le principal parti de droite en opposition. La social-démocratie estime que la mission gouvernementale a toujours sa raison d'être et que la réalisation du programme gouvernemental jusqu'aux élections législatives régulières est une condition nécessaire pour le maintien et le développement d'un État social moderne. Voilà l'argument par lequel il était son appel. Miroslav Grebeniček, président du Parti communiste, a fait savoir, après sa rencontre avec le Premier ministre Stanislav Gross, que les députés de son parti ne voteraient pas, par la même occasion, contre le gouvernement. Selon lui, c'est le programme de l'ODS, principal parti d'opposition, qui l'inquiète plus que les fautes de l'actuel cabinet. Ce mercredi, trois nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance au président Václav Klaus, dont l'ambassadrice de l'Autriche, Madame Margot Klestil-Löffler, veuve de l'ancien président autrichien Thomas Klestil. Le public pragois a accueilli avec un grand enthousiasme la présentation dans la maison municipale du ténor mexicain Ramon Vargas, qui chante notamment des airs d'opéras italiens. Le théâtre Continuo sera l'unique ensemble qui représentera le théâtre tchèque à l'Expo 2005 à Aichi, au Japon. En attendant, les membres de ce groupe indépendant ouvrent à présent la 40e édition du traditionnel festival du théâtre de marionnettes Strani Konice, consacré à Skupa. Météo, il va faire beau ces prochains jours en République tchèque. Ce jeudi, qui est le jour de fête de Kvido, le ciel sur l'ensemble du territoire sera presque clair et les températures diurnes se situeront entre 10 et 14 degrés. Pratiquer le ski alpin en montagne est toujours possible. C'était le journal de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
La crise gouvernementale tchèque se poursuit. L'hôpital de campagne tchèque au Sri Lanka a pu apporter son aide au moment où une nouvelle catastrophe a ravagé le littoral d'Indonésie. Répartition des rôles entre hommes et femmes tchèques. Début du festival Febiofest. Un entretien avec l'alpiniste Miroslav Caban. Ce sont les programmes que nous avons préparés pour vous aujourd'hui. Bonne écoute. Les communistes vont décider du destin du gouvernement. Tel est le titre du quotidien national Pravo, daté de ce mercredi. Le sort du Premier ministre Stanislav Gross, qui vient d'être réélu à la tête de son parti, semble effectivement devoir dépendre de la position que va adopter le Parti communiste lors du vote à la Chambre des députés d'une motion de censure vendredi prochain. Détail avec Alexis Rosenzweig.
Et cette motion de censure a été déposée mardi par la principale formation de l'opposition, le Parti civique démocrate, alors qu'un peu plus tôt dans la journée, les partenaires de la coalition gouvernementale avaient tenté une ultime fois de trouver un accord. Peine perdue, le Parti chrétien démocrate n'est pas revenu sur sa position et réclame toujours la démission du Premier ministre. Ce mercredi, ses membres réunis en conférence nationale doivent décider si les trois ministres qui les représentent se maintiennent ou non dans le gouvernement. Mais avant même cette conférence, le président du groupe chrétien-démocrate à la Chambre des députés, Jaromír Tarír, ne se faisait déjà plus guère d'illusions sur l'issue des débats. D'après les discussions à l'intérieur de notre groupe parlementaire, et sachant que nous avons utilisé toutes les possibilités pour faire changer d'avis le Premier ministre, je suppose qu'une majorité d'entre nous va recommander au ministre qui nous représente au sein du gouvernement de démissionner.
Strany, které nás zastupují ve vládě, podat demisi.
Stanislav Gross va donc devoir s'employer dans les prochaines heures et les prochains jours à user du talent de négociateur que de nombreux observateurs lui reconnaissaient avant qu'il ne prenne la tête du gouvernement. Car l'ODS, au plus fort dans les sondages, entend tirer profit de la crise actuelle. On écoute son président, Mirek Topolánek. L'ODS est convaincu que ceux qui soutiennent le Premier ministre sont comme lui. Ce sont ceux qui tolèrent les doutes autour de son patrimoine immobilier et les transactions bizarres de son épouse, ceux qui veulent conserver leur siège coûte que coûte. Qui soutient Gross est pareil que Gross, conclut le président du parti, qui vient de déposer la mention de censure. Pour renverser le gouvernement, il lui est cependant indispensable, afin de réunir les 101 voix nécessaires à la Chambre basse, d'obtenir le soutien des communistes. Et même si quelques voix discordantes se sont faites entendre dans leurs rangs, leur chef Miroslav Grebeniček s'est déclaré disposé à se prononcer contre le gouvernement, un gouvernement dirigé par un parti social-démocrate qui, selon ses propres mots, mène une politique imbécile. Revoilà donc le parti communiste de Bohême et de Moravie à nouveau au centre de l'attention et dans le rôle d'arbitre sur la scène politique tchèque.
L'hôpital de campagne tchèque à Galay, dans le sud du Sri Lanka, sur place depuis 3 mois, suite au tsunami dévastateur de décembre dernier, a pu apporter son aide au moment où une nouvelle catastrophe a ravagé lundi le littoral d'Indonésie. Yaroslava Gisiblova pour plus de détails.
La nuit de lundi à mardi était mouvementée pour 5 médecins, 9 infirmières et le reste du personnel de l'hôpital de campagne tchèque déployé dans le sud du Sri Lanka à Galay. 3 mois à peine après le terrible tsunami, la terre a encore tremblé lundi en Indonésie, suite à la décision des autorités d'évacuer les zones au large de Sumatra par crainte de nouveaux tsunamis. Toutes les patientes de la clinique obstétrique de Mahamudara ont été transférées à l'hôpital de campagne tchèque. Situé tout près des côtes, l'hôpital de Mahamudara avait déjà été submergé par les tsunamis le 26 décembre dernier. 1 heure après l'appel du gouvernement, les patientes ont été évacuées. Le fait que dans les heures suivantes, 5 femmes ont accouché témoigne de la vitesse à laquelle il a fallu réagir. L'hôpital de campagne tchèque mis en service à proximité de l'hôpital universitaire de Karapitia, qui ne possède pas de clinique obstétrique, est en ce moment le seul établissement capable d'apporter des soins aux femmes et aux enfants. Les femmes sri-lankaises sont plus de 90 à être hospitalisées dans l'unité gynécologique et pédiatrique mobile tchèque. 70 attendent la venue au monde de leur bébé, les autres ayant déjà leur nouveau-né à côté d'elles. Il y a 2 semaines, il semblait que l'hôpital tchèque quitterait le Sri Lanka. Selon son directeur, Jaromír Dolanský, une campagne négative des médias tchèques qui a découragé les sponsors, mais aussi des problèmes de coupure d'électricité et de communication avec le personnel local, était la raison pour laquelle l'hôpital envisageait son départ. Désormais, il restera en service et collaborera avec le personnel médical sri-lankais. Nous rappellerons qu'une 20aine de médecins, infirmières tchèques, présents sur l'île, sont des membres de l'équipe de secours de Liberec, Hand for Help, qui avait déjà été envoyée en mission lors des tremblements de terre en Iran.
Partage équitable des tâches ménagères. Bien que les plus émancipées que leurs grand-mères et mères, les femmes tchèques continuent d'en rêver. Pour un homme sur 4, mettre quotidiennement la main à la pâte dans l'intimité de leur foyer est une évidence, constate le rapport national sur la famille élaboré par le ministère tchèque du Travail et des Affaires sociales. Les chiffres donnent lieu à tout un questionnement sur la femme tchèque d'aujourd'hui. Magdalena Segertova.
Moderne d'esprit, les hommes tchèques sont, selon les enquêtes, presque unanimes. Les tâches de la maison devraient être assumées par les 2 conjoints. En réalité, elles relèvent principalement de la responsabilité de la femme, et y consacrent 2 fois plus de temps que leurs compagnons, dans les familles avec des enfants d'âge préscolaire, même 3 fois plus. En moyenne, faire le ménage, les courses, la cuisine et s'occuper des enfants leur prend 3h30 par jour, soit 2 heures de moins, il est vrai, qu'il y a 30 ans, sous le socialisme pur et dur. Si la cuisine, par exemple, est un domaine presque exclusivement réservé aux femmes, 84%, les hommes s'investissent davantage dans l'éducation des enfants, Pourtant, seul 1% d'entre eux se lancent dans l'aventure du congé paternité, qui reste plutôt une exception, un luxe, vu l'écart entre les salaires des hommes et des femmes. En revanche, pour ce qui est du financement des dépenses familiales, il existe une véritable égalité dans les ménages tchèques, du moins d'après le rapport ministériel en question. Pas facile d'être femme en République tchèque en ce début du XXIe siècle. À l'heure où les jeunes mères de famille sont discriminées à l'embauche, surtout à leur retour de congé maternité, où concilier vie professionnelle et familiale relève du parcours du combattant, elles ont du mal, et l'héritage du passé n'y est pas pour rien, à s'émanciper au sein du couple. Elles apprennent. Les hommes sont prêts à les aider, mais ils ne savent pas comment. Il faut les pousser, conseille le psychologue Josef Zeman, et ajoute « Le rôle de la femme chez nous a changé. Elle n'est plus dépendante matériellement de l'homme et insiste davantage pour que les tâches domestiques soient divisées. » Fin de citation. Les mentalités seraient-elles donc en train d'évoluer en Tchéquie ? À lire les récents propos du journaliste Jiří X. Doležal dans le quotidien Lidové noviny, on ne dirait pas. Pour l'homme, la femme est une source de plaisir et de détente. Elle doit s'occuper de lui et lui rendre de tels services pour qu'il puisse tranquillement graver son nom dans l'histoire, affirme-t-il ainsi. Une autre vedette journalistique, du petit écran cette fois-ci, et mère de 2 enfants, a dit que si son mari avait voulu prendre un congé paternité, il l'aurait complètement dégoûté. Et si les femmes, elles-mêmes plus indépendantes et plus fragiles que jamais, étaient responsables de leur mal-être?
630 projections de films de 65 pays seront proposées au public du 12e Festival international du film, de la télévision et de la vidéo, Fabio Fest, qui commence ce jeudi 31 mars. Les spectacles de ce festin des cinéphiles seront présentés non seulement à Prague, mais aussi à Brno, Ostrava, Liberec, Pardubice et dans 8 grandes villes slovaques. À Prague, la majorité des manifestations du Fabio Fest seront données dans le cinéma multiplex Village Cinéma Angel. Dans le cadre du festival, les spectateurs pourront voir plusieurs premières. Le directeur du programme du Fabio Fest, Přemysl Martinek.
C'est le cas
notamment des films que nous apportons du festival de Sundance. Il s'agit avant tout du film 40 nuances du bleu, œuvre qui a remporté le prix du meilleur film indépendant américain. Ensuite, il y a le meilleur film documentaire intitulé « Pourquoi nous combattons » et qui est consacré au thème brûlant de la guerre en Irak. Il ne faut pas oublier non plus le réalisateur Hal Hartley qui apportera le film « La jeune fille de lundi », œuvre dont la première européenne aura lieu chez nous.
Hal Hartley, ten přiveze svůj film « Dívka z Mandy », který bude mít u nás také evropskou premiéru.
Parmi les cinéastes que les organisateurs ont invités pour rehausser l'éclat du Fabio Fest, il y aura entre autres les Hongrois István Szabó et Marta Mészáros, le Canadien Bernard Emon, les Américains Ira Sachs et Hal Hartley, les Russes Andrei Konchalovsky, Karen Shakhnazarov et Vitaly Melnikov, l'Espagnol Carlos Saura, le Japonais Kiyoshi Kurosawa ou encore le Slovaque Milan Kniazko. En Slovaquie, le festival accueillera le réalisateur Andrzej Wajda. Les personnalités invitées auront la possibilité de rencontrer le public et de lui présenter 3 à 5 films qu'ils ont réalisés ou dans lesquels ils ont joué. Un accent spécial est mis dans le programme sur le cinéma indépendant américain. Cette fois, le Fabio Fest sera aussi un festival de musique, puisque des concerts de 48 formations musicales sont inscrits au programme. Et encore une bonne nouvelle pour le public, le billet d'entrée pour la majorité des spectacles coûtera 69 couronnes, quelque 2 euros, tandis que normalement, ce sont en moyenne 5 euros que les spectateurs pragois doivent débourser pour assister à un film diffusé dans un cinéma multiplex. En parvenant le 22 février dernier au sommet du mont Kosciuszko, point culminant de l'Australie avec ses 2229 mètres, Miroslav Caban est devenu le premier Tchèque de l'histoire à avoir réalisé les 7 sommets, l'un des plus grands défis de l'alpinisme qui consiste à gravir les 7 sommets les plus hauts des 7 continents. Ce jour-ci, Miroslav Caban, à la tête d'une expédition de 7 membres, se lance dans une autre aventure d'envergure. S'il venait à bout du mont Everest pour la 2e fois de sa carrière, il deviendrait le 2e alpiniste au monde à avoir enchaîné les 7 sommets en ayant sans oxygène. Guillaume Narguet a rencontré Miroslav Caban.
Le mont Everest et ses 8 850 mètres en mai 2002 pour l'Asie, puis le McKinley et ses 6 194 mètres en juin 2004 pour l'Amérique du Nord, l'Elbrouz et ses 5 633 mètres en juillet pour l'Europe, le Kilimandjaro et ses 5 894 mètres pour l'Afrique et le Vinson et ses 5 140 mètres pour l'Antarctique en décembre 2004, l'Aconcagua et ses 6 962 mètres en janvier 2005 pour l'Amérique du Sud et enfin le Kosciuszko pour l'Afrique et l'Océanie en février dernier. C'est dans cet ordre et en l'espace donc de 2 ans et 9 mois que Miroslav Tsaban a bouclé ce qui a été baptisé la couronne de la planète. Explication sur ce curieux et surprenant projet avec Miroslav Tsaban.
La couronne de la planète est vylez na všechny nejvyšší vrcholy kontinentu.
La couronne de la planète est un projet dont l'objectif est de gagner les plus hauts sommets de chaque continent. Ce n'est pas simple à mettre en place, surtout lorsque vous entendez réaliser le programme sur 1 an. Cette notion de temps est importante, c'est pourquoi en ce moment, je suis en train de préparer l'ascension du mont Everest, et ce même si je suis déjà parvenu à son sommet. Mais c'était il y a plus de 2 ans. En fait, techniquement, les montagnes ne sont pas aussi difficiles à escalader que certains pourraient le penser. Je dirais que les principaux obstacles se situent au niveau de l'organisation. Par exemple, la préparation pour le mont Vinson, plus au sommet de l'Antarctique, a été particulièrement compliquée puisqu'elle a duré pas moins d'un an. Lors de sa première ascension de l'Everest, Miroslav Tsaban était parvenu au sommet par son versant nord, côté tibétain, très rocailleux. Cette fois-ci, c'est donc par l'autre face sud, au Népal, recouverte de glace, que l'alpiniste tchèque se lancera à la conquête du toit du monde. Mais avant de s'envoler pour l'Himalaya, nous avons demandé à Miroslav Tsaban ce que cela représentait pour lui d'être le premier tchèque à avoir conquis les 7 sommets.
Je
ne sais pas, ce que je recherche avant tout dans ces défis, c'est la satisfaction physique, parce que c'est un effort que j'aime. Pour ce qui est du fait d'être premier, je mentirais si j'affirmais que cela ne fait pas plaisir. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que la vie continue. Voilà donc pourquoi toute mon attention est désormais concentrée sur la préparation à l'ascension du mont Everest. Je ne pense donc plus au fait que je suis le premier homme en République tchèque à avoir réalisé les 7 sommets. C'est du passé et mes pensées sont déjà tournées vers l'avenir.
Jsem dokončil jako první člověk v České republice 7 summit, tak ty myšlenky jsou pryč a už jsou myšlenky dál zase.
Vous pourrez écouter la suite de l'aventure de Miroslav Tsaban lundi et mardi prochain dans notre prochaine rubrique sportive. C'est la fin de ce Faisait événement, émission préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague et présentée aujourd'hui par Václav Richter.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Le printemps qui s'éveille à Prague s'annonce forcément musical. Durant les célébrations du printemps de Prague, les orchestres auront encore une fois l'occasion de justifier la réputation musicale des terres tchèques. D'autres artistes font pourtant trop souvent figure d'oubliés. Il s'agit des luthiers et autres fabricants d'instruments dont nous retraçons aujourd'hui l'histoire parfois surprenante. Les terres tchèques peuvent s'enorgueillir d'une solide réputation musicale. D'ailleurs, Mozart ne s'y était pas trompé quand il décida en 1787 de se rendre à Prague pour composer son opéra Don Giovanni. À la même époque, des musiciens tchèques rayonnaient partout en Europe, tels Joseph Myslivicek, il Divino Bohemo, qui fit carrière en Italie. Depuis le chant choral des Hussites au XVe siècle, la Bohème ne faillit pas à sa tradition de conservatoire de l'Europe. Il devrait en être des musiciens comme des fabricants d'instruments. Pourtant, le savoir-faire tchèque est en ce domaine sans doute moins connu que pour la musique. Une situation insolite, tant la lutherie, pour ne prendre qu'elle, est autant un artisanat qu'un art. On en est en tout cas convaincu lorsque l'on arpente les salles du Musée tchèque de la musique qui a rouvert récemment ses portes dans la rue Karmelitska à Malastrana. On y trouve ainsi une intéressante collection du maître luthier pragois Thomas Andrea Ulinski, né en 1731 et considéré comme l'un des pères spirituels de la lutherie tchèque. Ses mandolines, violons et autres viols d'amour sont de véritables bijoux. Les manches sont surmontées de têtes sculptées et les formes de ces instruments sont d'une élégance orientale marquée. La bohème d'Oulinski prolonge bel et bien l'Italie de Stradivari un siècle plus tôt. Le 19e siècle verra un autre fabricant tchèque, de piano cette fois, accéder à la célébrité, Antonin Petrov, né à Hradec Králové dans l'est de la Bohême en 1839. Avant de devenir une grande marque internationale, Petrov a été le nom de celui qui accéda au titre de fournisseur officiel de la cour de Vienne. À l'origine de cette belle histoire, l'oncle, Jan Heitzmann, fabricant de piano, que le jeune Antonin doit suivre à Vienne en 1857 afin de s'initier au métier. De retour en Bohême, Petrov commence à travailler au mécanisme de son grand piano. En 1874, il fonde sa propre usine et construit ses premiers pianos selon le système anglais de la double répétition. Dans les années qui suivent, les médailles d'or obtenues par Petrov dans le cadre d'expositions européennes assoient sa réputation. En 1896, il ouvre sa première boutique à Vienne et 2 ans plus tard accède au statut de fabricant personnel de l'empereur autrichien. En 1914, quand la guerre éclate, les 30 000 instruments produits par la firme Petrov sont transférés au château de Konopichtier en Bohême. Les remous de l'histoire au XXe siècle mettront à rude épreuve les fabricants d'instruments, comme d'ailleurs les musiciens eux-mêmes. Les nouveaux styles musicaux, qui, avec le rock'n'roll dès les années 50, utilisent l'instrumentation électrique, connaissent un grand succès en Tchécoslovaquie. Dans le contexte du régime communiste, les pionniers tchèques du rock doivent faire preuve de talent autant que d'ingéniosité pour pouvoir assouvir leur passion et la faire partager à un public jeune et demandeur. Selon Aleš Opekář, musicologue tchèque, il existait des guitares électriques fabriquées en Tchécoslovaquie, mais il n'y avait pas d'autres équipements disponibles sur le marché local. Ainsi, concernant les amplificateurs, les musiciens devaient se contenter, s'ils se limitaient à ce que leur proposaient les magasins locaux, à des mini-amplificateurs de 20 ou 40 watts placés directement sur la guitare. Il s'agissait généralement de microphones peu fiables et de très faible sensibilité. Adolf Langer, journaliste de la revue musicale Melody, déplore alors cette situation dans le numéro de juin 63. Il ne faut que 2 ou 3 guitares électriques, une basse et une batterie. Ce n'est pas là un fait exceptionnel, mais la formation normale d'un groupe de rock à travers le monde. Il a donc fallu faire preuve de débrouillardise. Le résultat est probant, puisque l'on peut jouer encore aujourd'hui sur ces copies d'amplificateurs Marshall construites dans les années 60. Ces instruments étaient alors construits de main propre et avec les moyens du bord. Pour les journalistes musicaux Lindor et Conrad, les pionniers du son étaient capables d'entretenir des appareils dans un état délabré. Ils pouvaient également en construire de nouveaux. Ces gens se recrutaient au petit bonheur la chance dans le milieu de la musique ou de l'électronique. Et de fait, la débrouillardise légendaire des Tchèques aidera le phénomène rock à se développer en Tchécoslovaquie tout au long des années 60. Est-ce un mal pour un bien ? Aujourd'hui, les Tchèques possèdent une solide réputation dans la réplique de modèles connus de guitares électriques. Et la victoire du jeune luthiste tchèque Jan Spidlen au 10e concours international des luthiers en 2003 prouve que la tradition de la lutherie tchèque n'a rien perdu de son brio depuis Ulinsky.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.